Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu n'intervient pas directement pour la naissance de chaque être humain. Nous avons lu dans Néhémie, « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses. » Partant de ce verset, pouvons-nous conclure que chaque fois qu'un être naît, que ce soit un animal, un poisson ou un homme, Dieu s'en occupe d'une manière particulière, directe et personnelle? La réponse est affirmative. Mais il nous faut maintenant comprendre comment s'effectue l'intervention divine pour ces naissances. En se référant au Christ, Paul écrit « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante. » Dieu a établi des lois qui régissent non seulement notre planète, mais aussi tous les systèmes solaires, toutes les nombreuses galaxies qui sont dans l'univers. Mais puisqu'il soutient ces masses par sa parole puissante, croyez-vous qu'il donne constamment des ordres afin qu'elles se maintiennent sur leur orbite, sur leur trajectoire et que leurs mouvements correspondent bien aux lois dictées et prévues par Dieu? Le tout premier verset de la Bible affirme « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Cette petite phrase nous fait comprendre que dès ce moment, Dieu avait établi les lois pour gouverner sa création, car il gouverne tout ce qu'il a créé. La création elle-même est une sorte de gouvernement. Elle est régie par certaines lois, certains principes. Lorsque Dieu fonda notre terre, les anges poussèrent des cris de joie. Ils éclatèrent en chants d'allégresse. Mais par suite de la révolte des anges, elle devint informée vite. Tout ceci vous a déjà été expliqué dans une émission dont le texte est à votre disposition si vous le souhaitez. Après la destruction de la surface de la terre suite à la rébellion de Satan, Dieu la recréa. Il l'a reprise sous son contrôle. Il se mit à restructurer, à remodeler, à réaménager, à redessiner ce qui était devenu informe et vide. Il créa ensuite de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers. Il créa aussi les poissons, les oiseaux, le bétail, tout ce qui était nécessaire à la nourriture de l'homme, et après cela, il créa l'homme et la femme. Tout ce qui fut créé, que ce soit des végétaux ou des animaux, tout, sans aucune distinction, est régi par des lois assurant leur reproduction. Il en est de même pour l'homme et la femme. En disant aux animaux et à l'homme, « Soyez féconds, multipliez », il va de soi que Dieu avait établi diverses lois, afin que cette reproduction se fasse selon leur espèce, comme il l'avait indiqué. Faites bien attention à ne pas confondre espèce et race, qui sont deux choses bien différentes. Nous devons comprendre que Dieu, qui possède la vie inhérente, qui donne la vie et qui l'entretient, tant pour les plantes, les arbres, les animaux et aussi pour l'homme, Dieu fit en sorte que, lorsque les conditions qu'il avait fixées seraient remplies, alors la vie serait automatiquement donnée, soit à une nouvelle plante ou à un nouvel être. Si une graine trouve le terrain et l'environnement qui lui convient, alors et alors seulement, elle germera et produira selon son espèce. Si deux poissons frayent, cela se fera conformément à l'instinct que Dieu a implanté, fixé dans leurs gènes. La femelle déposera ses œufs, et le mâle les fécondera. Ce n'est qu'alors que la vie se perpétuera, si toutes les conditions sont réunies et si rien ne vient entraver la naissance. Il en sera de même pour le fringant taureau s'il rencontre l'élu de son cœur. Eux aussi agiront selon l'instinct, qui a été programmé en eux. Et si toutes les conditions sont réunies, on verra alors la naissance d'un petit veau. Ce sera le résultat des lois prévues et établies à cet effet. Ces lois ont été établies par le grand législateur de tout ce que contient l'univers. Si deux êtres humains se rencontrent et accomplissent l'acte nécessaire à leur reproduction, si les conditions correspondent aux lois fixées par Dieu, alors, 9 mois plus tard, ce couple verra venir bébé et quelques nuits blanches. Tout se fait sans aucune intervention directe, sans aucune intervention particulière et personnelle de la part de Dieu. Toutes ces lois de la génétique, de la physique, de la reproduction ont été créées une fois pour toutes, aussi bien pour l'univers qu'il soutient par sa parole puissante, que pour les plantes, les animaux et les humains. Cela s'accomplit par tout ce qu'il a établi au moment de la recréation de la surface de la terre. Comprenez bien ce passage qui se rapporte à la remise en ordre effectuée par l'Éternel Dieu après que la terre se fut trouvée dans le chaos, qu'elle fut devenue informe et vide. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. C'est ce que Dieu a fait au cours des 6 premiers jours de la recréation, ces 6 jours de 24 heures chacun, décrits dans le 1er chapitre du livre de la Genèse. Les lois relatives à la reproduction des êtres vivants se perpétuent. Dieu les maintient, et c'est grâce à cela que la vie remplit la terre conformément aux ordres donnés lors de la recréation. L'Éternel Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie. Il créa Ève et, depuis lors, les choses de la vie se déroulent comme Dieu l'avait prévu. Je voudrais vous citer un passage du livre intitulé « La croissance » de l'intéressante collection « Le monde des sciences » édité par Time Life. En parlant de l'enfant que la mère porte dans son sein, nous disons, et je cite, « Quelle est la force qui pousse le nouveau-né à inspirer pour la première fois ?» Selon Stanley James, médecin d'un hôpital pédiatrique new-yorkais, les changements de pression jouent à cet égard un rôle de premier plan. Durant la vie fœtale, les poumons de l'enfant sont ratatinés et aplatis, bien qu'ils contiennent un peu de liquide. Or, au moment de l'accouchement, la cavité thoracique du fœtus se trouve fortement comprimée, le liquide s'écoule par la narine et la bouche. Dans les instants qui suivent la naissance, le thorax du nouveau-né, sur lequel il ne s'exerce plus de pression, se gonfle comme une éponge qu'on relâche après l'avoir exprimée, et l'air y pénètre pour remplir le vide. Si les conclusions du docteur James sont exactes, le premier souffle du nouveau-né serait un phénomène passif. Ce n'est que par la suite que le bébé se mettrait à respirer activement. Et l'effort que cela lui impose est proprement herculéen. Fin de citation. L'homme n'a qu'une existence chimique temporaire. L'homme est matière. Le système digestif crée de l'énergie physique. La circulation sanguine et le système respiratoire entretiennent la vie en lui. Il ne s'agit pas là d'une intervention directe et de chaque instant de Dieu. C'est un processus qui se déroule selon les ordres qui furent émis au commencement. Il en est de même pour les animaux. Ce sont des processus que Dieu a mis en mouvement, tout comme la rotation de la Terre, son orbite autour du Soleil, etc. Tous ces événements continuent exactement comme Dieu l'a prévu. Le souffle de vie que Dieu souffla dans les narines d'Adam fut un souffle physique qui lui donna la vie physique. Essayons maintenant de comprendre certains passages bibliques Et voyons ce que David affirme en s'adressant à l'Éternel Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, c'est Dieu qui a formé ses reins et qui a tissé David dans le sein de sa mère. David le savait, mais ce passage se rapporte aux lois établies par Dieu et mises en route à la création de l'homme. Tisser, c'est effectuer un ensemble d'opérations, consistant à entrelacer des fils textiles pour produire des étoffes ou des tissus. Quelques commentaires bibliques, dont le Clark's Commentary, font remarquer que ce mot explique bien le délicat travail qui s'effectue pour la formation du corps humain. Il y a les os, qui sont la fondation. Ils forment la charpente même du corps, sur laquelle et autour de laquelle viennent se placer la musculature, les tendons, les artères, les veines et la peau, sans compter le système nerveux d'une complexité remarquable. Ce psaume est un hymne dédié à la sagesse parfaite du grand artisan dans sa réalisation du corps humain. Le poète utilise une remarquable métaphore. Il compare cette réalisation à une véritable tapisserie, une magnifique dentelle. David ajoute « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Quelle délicatesse pour exprimer le sein maternel dans lequel son corps a été formé. Le verset suivant doit être examiné dans son contexte. Quand je n'étais qu'une masse informe, autrement dit alors que je n'étais encore qu'un embryon, qu'une petite masse non encore déployée, déroulée, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dans le texte original, il n'est pas fait mention de jours, mais comme cela est traduit dans de nombreuses traductions, dont le Companion Bible, il est question de membres. Et dans ton livre, tous mes membres sont inscrits avant qu'aucun d'eux n'existât et ils seront façonnés, confectionnés par le temps. Avant que les membres ne soient formés, ils sont déjà inscrits comme si le plan du corps humain était dessiné dans un livre. Ceci est une allusion au travail de broderie, au tissage délicat qui se poursuit. L'ouvrier qui tisse ou qui brode a devant lui le modèle, le dessin de ce qu'il doit réaliser, et il s'y réfère au cours du tissage qui s'effectue lentement mais avec précision. De même, cette masse informe qu'est l'embryon prend forme lentement de jour en jour et elle finit par devenir cette merveille qu'est le corps humain. En disant « Et dans ton livre, tous mes membres sont inscrits », bien qu'on ne puisse encore les discerner dans cette masse qui doucement prend forme, Dieu, lui, peut déjà les voir clairement dans leurs moindres détails, comme si leur forme était dessinée dans un livre.